Voix Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30, temps universel, du vendredi 7 février 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. 5 chefs d'une milice centrafricaine ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Plusieurs personnes marchent à Yaoundé contre la tenue des élections législatives ce dimanche au Cameroun. Sommet de l'Union africaine également ce dimanche et lundi pour faire taire les armes en Afrique. Le gouvernement de Brazzaville ne prévoit pas pour l'instant de rapatrier les étudiants congolais en Chine, mais a décidé de les appuyer financièrement. Et sur place en Chine, les étudiants africains face à la question de leur évacuation.
Si quelque chose m'arrive ici, on va me soigner gratuitement. Oh, c'est ce que moi-même je reconnais que mon pays ne peut pas le faire. Donc moi je n'accepterai jamais que je sois rapatrié.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. L'armée malienne entamera d'ici au 10 février son déploiement vers Kidal afin de reprendre le contrôle de cette ville symbole qui échappe de longue date depuis longtemps à l'autorité de l'État malien. La décision a été prise par une commission technique de sécurité réunissant des représentants des forces maliennes de l'ex-rébellion, de la mission de l'ONU et des différents intervenants étrangers au Mali. Le retour de l'armée malienne à Kidal est un élément clé dans la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger de 2015. Condamnation aujourd'hui à Bangui de 5 chefs d'une milice centrafricaine aux travaux forcés à perpétuité. Ils ont été reconnus coupables de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en rapport avec le massacre de dizaines de civils en 2017. Eric Manerekiza.
Il s'agit notamment du général Crépin Wakanam, dit Pino Pino, et Kevin Bérébéré, dit Bérébéré, les principaux chefs d'un groupe armé anti-Balaka, milice d'autodéfense à majorité chrétienne et animiste. Cette milice avait perpétré un massacre à Bangassou, dans le sud, contre des civils musulmans le 13 mai 2017. Selon l'ONU, l'assaut ce jour-là, ainsi que des heurts les jours d'avant et d'après, avait fait 72 morts, 76 blessés et 4400 déplacés. Plusieurs casquets bleus avaient également été tués par la même milice ce mois-là à Bangassou et ses environs. Les membres de la communauté musulmane qui s'étaient réfugiés dans l'église catholique locale avaient été particulièrement visés le 13 mai. En tout, 28 accusés étaient jugés par la cour criminelle du tribunal de Bangui pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, pillage et meurtre. Les verdicts ne sont susceptibles que d'un recours en cassation. Selon le ministre de la Justice, Flavien Mbata, c'est la première fois qu'une condamnation pour crime contre l'humanité est prononcée par un tribunal centrafricain. Les autres accusés, des combattants du groupe, ont été condamnés à des peines allant de 10 à 15 années de travaux forcés, notamment pour assassinat et détention illégale d'armes.
Faire taire les armes est le thème du sommet de l'Union africaine de dimanche et lundi à Addis Abeba, où sont attendus les chefs d'État et de gouvernement du continent. Lors des célébrations du cinquantenaire de l'organisation, les dirigeants africains avaient promis de mettre un terme à toutes les guerres en Afrique d'ici 2020. Nathalie Barche.
S'adressant jeudi aux ministres africains des Affaires étrangères, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a déclaré que l'objectif manqué de 2020 révélait la complexité de la problématique sécuritaire en Afrique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui succède à l'Égyptien Abdel Fattah al-Sissi à la tête de l'Union africaine, a rappelé récemment que les conflits continuent de limiter le développement, estimant que les objectifs d'intégration économique et de lutte contre les violences faites aux femmes passent par la promotion d'une Afrique sûre et en paix. L'organisation africaine, qui doit se prononcer sur plusieurs dossiers, tente notamment de peser davantage dans la résolution du conflit en Libye et au Soudan du Sud. La présidence de l'Union africaine coïncide pour l'Afrique du Sud avec un siège temporaire au Conseil de sécurité de l'ONU qui devrait permettre de faire entendre la voix du continent sur la scène mondiale.
Élections législatives et municipales ce dimanche au Cameroun. En plus de la peur qui règne dans la partie anglophone, plus d'une centaine de personnes ont marché ce vendredi à Yaoundé contre la tenue de ces élections. Le point avec Emmanuel Jultap.
Les manifestants vêtus de noir, des hommes et des femmes, tenant des balais en main et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des messages contre le double scrutin, ont parcouru environ 1 kilomètre dans les rues de Yaoundé. Non aux élections, oui à la transition politique, pouvait-on lire sur des pancartes. Ces manifestants ont pris de court les forces de sécurité et de l'ordre de la capitale qui sont arrivées après la fin de la marche. La foule avait réussi à se disperser. Au cours de cette manifestation, la présidente du mouvement Stand Up of Cameroun, Edith Kawala, a appelé une nouvelle fois les électeurs camerounais à rester chez eux ce dimanche. « Nous prônons un boycott pacifique des élections », a-t-elle ajouté. Le MRC, un autre parti de l'opposition, avait aussi appelé au boycott de scrutin de dimanche prochain. Yaoundé, Emmanuel Jeluntap, VOA Afrique.
Les autorités du Congo-Brazzaville ne souhaitent pas pour l'instant le rapatriement des étudiants congolais de Chine, pays en proie à l'épidémie de coronavirus. Elles ont toutefois décidé de leur envoyer une assistance financière de 200 millions de francs CFA. Le point sur place avec Arsène Séverin.
L'envoi de cette somme a été annoncé par le gouvernement devant l'Assemblée nationale. Les députés ont interpellé le Premier ministre Clément Mouamba et ses ministres sur les mesures prises au Congo pour juguler cette épidémie au cas où des suspects venaient d'être identifiés. Mais aussi pour les étudiants congolais qui sont en Chine, notamment dans la ville de Wuhan, l'épicentre de cette maladie. Selon le Premier ministre, ces 200 millions de francs CFA serviront aux besoins de première nécessité à ces étudiants en quarantaine depuis fin décembre. On compte plus de 500 étudiants congolais en Chine et 105 sont dans la ville de Wuhan. C'est à ces derniers que l'argent est destiné. En même temps, le gouvernement n'envisage pour l'heure pas de rapatriement d'étudiants. La ministre de la Santé, Jacqueline Lydien Mikolo, a promis aux députés de suivre minutieusement la situation tant des étudiants en Chine qu'ici au Congo. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Des mesures draconiennes sont prises pour faire face à l'épidémie de pneumonie virale qui a fait plus de 630 morts en Chine, dont un des premiers médecins à avoir sonné l'alarme. Le point avec Ekiabadou.
Ces dernières 24 heures, le bilan de l'épidémie s'est alourdi de 73 décès en Chine continentale, dont 69 au Hubei, sur les plus de 30 000 personnes contaminées dans le pays. Hors de Chine continentale, plus de 240 cas de cette maladie sont désormais confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Deux décès ont déjà été imputés à la maladie, l'un aux Philippines et l'autre à Hong Kong. D'autres pays poursuivaient l'évacuation de leurs citoyens de Wuhan. C'est le cas du Canada, avec près de 180 ressortissants évacués. Des milliers de voyageurs et des membres d'équipage sont consignés sur deux navires de croisière en Asie. De nombreux pays du monde ont multiplié les restrictions à l'entrée des personnes en provenance de Chine et déconseillé les voyages dans ce pays, à l'exemple de l'Italie, qui surveille la température de tous les passagers en provenance de l'étranger. Alors que la piste d'un virus provenant de la chauve-souris semble se confirmer, des scientifiques chinois ont annoncé que le pangolin, un petit mammifère, pourrait être l'hôte intermédiaire ayant le dernier transmis l'agent infectieux à l'homme. L'épidémie semble également avoir pris un tour politique ce vendredi, avec le décès dans la nuit du docteur Li Yongliang, un médecin de Wuhan qui avait donné l'alerte fin décembre après l'apparition du virus dans la capitale du Hubei.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, 225 000 emplois ont été créés en janvier, alors que les analystes tablaient sur 164 000. Les secteurs de la construction et de la santé ont enregistré le plus grand nombre de recrutements selon le ministère du Travail. Le taux de chômage se situe à 3,6%. Lors de son discours sur l'état de l'Union mardi, le président Trump s'était réjoui des bons résultats de l'économie américaine, déclarant « les emplois sont en plein essor, les salaires s'envolent ». Les forces israéliennes ont déployé des renforts à Jérusalem et en Cisjordanie occupée à l'occasion de la prière du vendredi. De nouveaux heurts ont éclaté lors d'une manifestation de Palestiniens contre le plan américain de règlement du conflit. Les manifestants ont brûlé des pneus et lancé des pierres et des cocktails Molotov sur les soldats israéliens qui ont riposté avec du gaz lacrymogène. Hier, une attaque à la voiture Bélier à Jérusalem a blessé une dizaine de soldats israéliens. Des affrontements en Cisjordanie et à Jérusalem ont fait 3 morts, dont 2 Palestiniens. La police grecque a annoncé l'arrestation de 7 hommes soupçonnés d'avoir intimidé et menacé des migrants après des manifestations contre le durcissement de la procédure d'asile en Grèce. Lundi et mardi, lors de manifestations contre une nouvelle loi contre ces procédures d'asile, des heurts ont eu lieu entre migrants et forces anti-émeutes qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Nani Talani qui nous présente la Minute Éco.
Le patron de Crédit Suisse, le franco-ivoirien Tidiane Thiam, a pris la porte ce vendredi, emporté par un scandale d'espionnage d'anciens cadres dans lequel il a toujours nié être impliqué. Il quittera ses fonctions le 14 février après la présentation des résultats annuels de la banque et sera remplacé par le Suisse Thomas Gottesten. Le mineur canadien Monroe cherche à vendre sa mine d'or de Namoya dans l'est de la République démocratique du Congo. Il accuse le gouvernement congolais de n'avoir pas amélioré la sécurité dans la région à la suite d'un enlèvement de son personnel l'année dernière. Les attaques répétées des milices locales avaient contraint Monroe Corporation à suspendre ses opérations sur plusieurs de ses sites en RDC en septembre. En Tanzanie, un député exige des comptes du gouvernement pour un montant d'environ 184 millions de dollars qu'Acacia Mining Company n'a jamais payé à l'État pendant toute la période où elle exportait des minerais avant sa dissolution. Terminons par certains métaux industriels qui souffrent de l'épidémie de pneumonie virale qui se propage en Chine. Le cuivre accuse par exemple une baisse de près de 10%. Les autres métaux industriels ont suivi la même tendance, notamment l'aluminium et l'étain, avec des cours qui ont perdu 5 à 8% depuis le début de l'épidémie.
À présent, la page des sports avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Le Rwanda s'apprête pour le CHAN 2020.
Oui, la Fédération rwandaise de football a dévoilé l'identité de 2 adversaires des Amavubi pour des matchs amicaux. C'est le Cameroun, pays hôte de la compétition, qui fera face au Rwanda lors d'un match test le 24 février à Yaoundé. La seconde rencontre opposera les Amavubi au Diable Rouge du Congo à Kigali le 28 février. Le tirage au sort pour la phase finale est prévu le 17 février prochain. Le CHAN se tiendra du 4 au 25 avril.
Joseph Douadji signe chez les Black Leopards d'Afrique du Sud.
Oui, près de 7 mois après avoir rejoint Bidvest White en Afrique du Sud, le défenseur togolais reste dans la nation arc-en-ciel mais change de club. Il a paraffé un bail d'une année et demie avec les Black Leopards. Joseph Douadji a débuté les séances d'entraînement avec son nouveau club aujourd'hui à Polokwane. Son compatriote Ouro Sama Hakim est de retour à Lille en France. Après une Ligue des champions CAF exceptionnelle, il a signé au LOSC en 2018 pour 5 ans. Entre équipe réserve et quelques apparitions dans l'équipe première, l'ancien joueur de l'AS Togo Port n'avait pas pu s'imposer et avait été prêté à Belenenses au Portugal. Il a été rappelé et va devoir cravacher dur pour se faire une place dans l'équipe première.
Roland Schoeman, suspendu pour dopage.
Le champion sud-africain de natation a été suspendu 1 an pour dopage. L'annonce a été faite par la Fédération internationale de natation. Roland Schoeman, 39 ans, champion olympique du relais 4x100 mètres en 2004 à Athènes et triple champion du monde, a été contrôlé positif en mai 2019. Le nageur, qui s'entraînait pour disputer les Jeux olympiques de Tokyo 2020, a été suspendu donc 1 an jusqu'au 17 mai prochain. Le Sud-Africain peut faire appel de sa suspension devant le tribunal arbitral du sport.
Cérémonie en mémoire de Kobe Bryant le 24 février à Los Angeles.
Une cérémonie en mémoire de la star planétaire de basketball Kobe Bryant et des 8 autres personnes tuées avec lui dans un accident d'hélicoptère est programmée le 24 février au Staples Center de Los Angeles. L'information a été rapportée par le Los Angeles Times et CNN qui se réfère à une source proche de la famille du basketteur. Les Lakers, le club où Kobe Bryant a évolué pendant 20 ans, n'ont pas encore confirmé l'événement. La date du 24 février fait référence au numéro de Kobe et de sa fille. La légende des Lakers portait le numéro 24 durant sa seconde partie de carrière et Diana, sa fille de 13 ans, emportait avec lui, basketteuse elle aussi, le numéro 2. Le Staples Center, on le rappelle, célèbre salle des Lakers et des Clippers, avait déjà accueilli les obsèques publiques de Michael Jackson en 2009.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahman Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Tchad, 24 partis d'opposition appellent au respect de l'état de droit en vue de préserver la paix et le progrès pour tous. Ces partis ont publié une déclaration commune au sujet du processus électoral en cours. André Colmajingar, notre correspondant sur place, nous fait le point.
Au cours d'une rencontre tenue ce vendredi à N'Djamena, le G24 estime qu'il serait matériellement difficile de tenir les élections législatives et locales en 2020. Il estime que l'État n'a pas prévu un budget pour ce scrutin.
Que je regarde le budget de l'État 2020, je ne vois aucune ligne consacrée à l'organisation des élections. Alors, comment ils vont le financer?
Salih Bougarba, l'un des membres du G24.
On compte sur la communauté internationale, mais la communauté internationale ne peut pas tout financer. Et encore qu'elle pose des conditions, elle exige que ces élections soient inclusives, or elles ne le sont pas. Elle exige également qu'elles soient transparentes. Elles ne sont pas à l'évidence. Nous nous sommes adressés au président de la République en lui demandant de réunir au plus vite une table ronde autour de ces questions importantes de manière à trouver des solutions consensuelles à ces problèmes importants. À défaut de cela, les élections n'auront pas lieu. Si le gouvernement ne nous entend pas, nous avons prévu toute une série d'actions, y compris le blocage de la CENI. Sans CENI, il n'y a pas d'élection.
Le parti au pouvoir ne fait pas la même lecture des faits et s'est dit déterminé à aller à cette consultation électorale.
Si ces grands messieurs ne sont pas prêts, qu'ils le disent. Mais nous, au MPS, on est prêts et on ira aux élections.
Jean-Bernard Padaré est le porte-parole du MPS, Mouvement Patriotique du Salut, parti au pouvoir.
On ne peut pas prévoir d'aller aux élections sans budget. Il y a de l'argent pour aller aux élections. Quel dialogue inclusif? Il y a le CNDP, l'opposition y est représentée, il y a la CENI, l'opposition y est représentée. Je crois savoir que certains de ces partis-là ont des représentants à l'Assemblée. Il y a eu un débat assez lourd au niveau de l'Assemblée avant l'adoption de la loi électorale. Qu'est-ce qu'ils veulent encore comme débat? Il ne faut pas, pour des considérations bassement matérielles, qu'on dise qu'il faut provoquer un dialogue inclusif pour parler de quoi? Ils veulent qu'on dise, bon, allez, on fait un gouvernement inclusif. On ne peut plus faire ce marché de dupes-là sur le dos du peuple tchadien.
Pour Aladoum Balthazar Djarma, rapporteur général du cadre national de dialogue politique, membre de l'opposition, le G24 est un groupe d'intérêt qui fait du dilatoire.
Vous n'allez pas donc croire que ces gens sont tous représentés à la CENI nationale où ils tirent donc des dividendes et ont été tous des ex-membres du CNDP qui puissent aujourd'hui ne pas croire à la sincérité de ce qu'ils avaient fait. Cela relève simplement donc de la comédie. En politique, il n'y a que des intérêts permanents, tout comme il n'y a pas d'adversaires permanents. Nous pensons bien à eux de s'organiser, de prendre part à ces élections, mais s'ils ne le prennent pas, on ne les forcera pas. Nous ne partons pas pour le partage d'une communion. D'ailleurs, on serait très ravis qu'ils ne se présentent pas pour nous permettre d'avancer.
Selon des sources proches de la CENI, un chronogramme proposé par les partis politiques membres du CNDP pour l'organisation de ces élections d'ici la fin de l'année est déjà en étude pour son adoption dans les jours qui suivent. André Kodmadingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique à N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La propagation du coronavirus continue avec près de 32 000 contaminations en Chine et 636 morts. La presque totalité des décès ont eu lieu dans la province de Hubei, le berceau de la contagion dont Wuhan est la capitale. Selon les chiffres du Guardian, sur les 80 000 étudiants africains de Chine, près de 5 000 sont actuellement à Wuhan. C'est le cas d'Hermès Kondrou, un étudiant centrafricain en troisième année du cycle ingénieur aéronautique à l'université de Nankin, située à 530 km à l'est de Wuhan. Il nous raconte son confinement.
Pour le moment, on ne sort plus parce que le gouvernement chinois a pris des mesures de prévention pour la maladie. Donc, on ne peut plus sortir pour le moment. Auparavant, on sortait pour acheter des choses si nous sommes dans les besoins. Mais pour le moment, on ne sort plus. Ils ont envoyé des messages, des informations hier soir qu'ils ne vont jamais autoriser les sorties. Si on veut sortir, on va collecter l'argent de la chose qu'on veut. on va faire une liste de ces choses. Maintenant, ils vont essayer d'organiser à un Chinois de venir récupérer et aller acheter et nous amener ces choses-là.
Comment vous organisez-vous pour les repas, par exemple?
On achète en ligne, vous voyez, et on cuisine à l'intérieur de notre chambre parce que même pour aller dans la cuisine, là-bas, c'est pas facile. Il y a trop de monde qui sont là-bas en train de cuisiner. Donc, on ne sait jamais. On peut toutefois être en contact avec un ami qui a déjà le corona et vous voyez. Donc, on reste à l'intérieur de notre chambre pour cuisiner. Hein, une chambre de 2 mètres carrés. On fait tout à l'intérieur.
Tout est livré à l'université?
Oui, oui. On a fait tout en ligne et tout est livré à l'université. Mais c'est vraiment cher. C'est, on dépense beaucoup parce que faire des achats en ligne, c'est de l'argent. Ça vaut de l'argent.
Qu'est-ce qui est le plus dur dans votre vie quotidienne aujourd'hui?
C'est d'abord le fait de ne plus sortir. De deux, il n'y a pas de morale, même si je veux étudier, mais toujours je sens que je ne suis pas en liberté. Je suis toujours enfermé dans une chambre de 2 mètres carrés. Et des fois, l'Internet, la connexion ne marche pas. Ce qui fait la différence entre le prison et la vie actuelle, c'est juste la connexion. Ici, la connexion ne marche pas, donc ça, c'est fini. Il n'y a rien de bon pour le moment. Tout est difficile. Même pour trouver à manger, vous voyez, des fois, on fait des efforts. Des fois, tu te réveilles le matin jusqu'au soir, tu ne manges rien, tu bois de l'eau chaude avec des biscuits. Vous voyez, c'est difficile, c'est difficile.
Est-ce que vous avez été en contact avec votre ambassade? Est-ce que vous aimeriez être rapatrié?
Non. Moi, même si l'avion de rapatriement vient, moi, je ne vais jamais rentrer. Parce que en République centrafricaine, pour le moment, nous n'avons pas des mesures de précaution comme la Chine. Ça, c'est un. Et de deux, l'effort que la Chine fait pour soigner ces gens qui sont contaminés et qui sont touchés par ce virus, si quelque chose m'arrive ici, on va me soigner gratuitement. Or, c'est ce que moi-même, je reconnais que mon pays ne peut pas le faire. Donc, moi, je n'accepterai jamais que je sois rapatrié.
C'était Hermès Kondrou, un étudiant centrafricain en Chine, joint par Claire Moingebourg. Au Burkina Faso, plus de 2300 écoles ont fermé depuis le début des attaques en janvier 2016. Ces chiffres ont été annoncés hier par le gouvernement burkinabé qui précise que ces dernières semaines, 36 écoles ont fermé après l'attaque de l'Amdamol dans le Sahel qui a fait 18 morts. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Que devient le secteur de l'éducation en cette situation d'urgence? C'est à cette question qu'a répondu le ministre de l'Éducation hier jeudi à Ouagadougou. Et les chiffres annoncés sont alarmants.
À la date du 30 janvier 2020, nous enregistrons 2369 établissements fermés, affectant 325 245 élèves et 10 048 enseignants, avec 623 établissements endommagés.
Stanislas Waro, ministre de l'Éducation.
Cependant, il faut signaler que suite à l'attaque de l'Amdamol, il y a quelques jours, on enregistre à la date du 3 février 2020, 36 écoles primaires fermées dans la commune de Bani. Les milliers de personnes déplacées internes, dont de nombreux élèves, ont occupé des salles de classe, occasionnant parfois leur détérioration et nécessitant leur réhabilitation.
Tous les secteurs sont touchés, mais celui de l'éducation est éprouvé, selon le gouvernement. Au moins 6 régions connaissent les fermetures d'écoles. Il faut accompagner les forces de défense et de sécurité, selon le ministre de l'Éducation.
Le plus important, c'est qu'on travaille à accompagner les forces de défense et de sécurité, à faire en sorte que ces zones-là soient suffisamment pacifiées de façon à nous permettre de revenir, dérouler notre programme parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas vous voir là-bas. Donc que ce soit des personnes du village ou pas, ils n'en veulent pas. Donc on n'a pas intérêt à travailler, à ne pas protéger donc, nos compétences, à ne pas protéger nos populations. Donc nous, c'est surtout avec les forces de défense que nous travaillons. Et ce sont elles qui nous disent à quel endroit on peut repartir. Et dès que c'est dit, nous discutons avec nos agents pour repartir et rouvrir nos écoles.
Le gouvernement dit qu'il travaille à gérer cette situation.
À la même date du 30 janvier 2020, la réouverture de 824 établissements scolaires.
Stanislas Waro.
Il faut noter également la réinscription de plus de 20 000 élèves des établissements fermés ou élèves déplacés internes dans des établissements d'accueil. Ça, ce sont des chiffres d'élèves que nous avons recensés. La réhabilitation des établissements endommagés suite à leur occupation par les personnes déplacées internes, la réalisation d'infrastructures pour accueillir les élèves déplacés, et des initiatives locales d'accueil et d'inscription des élèves des personnes déplacées internes.
Depuis le début des attaques terroristes en janvier 2016, 10 enseignants ont été tués selon les autorités. Le 4 janvier dernier, 14 personnes ont été tuées, dont 7 élèves sur l'axe Toini-Tougan dans la boucle du Moun. Les attaques ont fait 480 morts civils et militaires dans la seule année 2019 selon le gouvernement burkinabé. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le rappeur ougandais Fresh Kid, qui a accumulé des centaines de milliers de hits sur YouTube, a remporté un prix américain de la musique pour sa chanson Bambi. Il est sorti victorieux d'une lutte avec le gouvernement ougandais, le tout avant son 8e anniversaire. De son vrai nom, Patrick Ssenyondjo, le jeune rappeur a acquis une certaine notoriété en Afrique de l'Est pour ses chansons sur les difficultés de ses parents à subvenir à ses besoins et sur la pauvreté dans son village natal. Le point avec Arzuma Compaoré.
Dans son tube à succès Bambi, qui signifie « s'il vous plaît » en langue l'Ouganda, Fresh Kid voulait plus de la vie.
La vie dans le village n'est pas facile. Parfois, vous réalisez ce que vous désirez, d'autres fois, vous n'y arrivez pas. Parfois, c'est une vie heureuse et d'autres fois, ça ne l'est pas. Pour moi, ce n'était pas la meilleure vie, alors j'ai décidé de chanter pour réaliser ce que je désire.
Paul Mutabazi, manucure, illettré et itinérant de 40 ans, avec 5 enfants, a commencé à diriger ses efforts vers son fils Fresh Kid, dont le talent a commencé à faire tourner les têtes à l'âge de 5 ans.
Chaque fois qu'il entendait jouer une chanson, il s'empressait d'aller devant la radio et l'écouter jusqu'au bout, la mémoriser immédiatement et se mettait à la chanter. Il maîtrise une chanson le jour de sa sortie. Pendant la journée, vous le voyez danser et chanter beaucoup sur différentes chansons.
À l'extérieur, une chaîne en argent autour du cou, le jeune rappeur est juste un autre enfant qui joue avec ses amis. Mais à l'intérieur du studio Badman Records, à la périphérie de Kampala, c'est un vrai professionnel. Au dire de ses producteurs, il peut enregistrer une chanson en moins d'une heure sans presque aucune répétition.
Fresh Kid est en fait très rapide pour choisir les paroles et choisir un contenu. Les paroles sont écrites et enregistrées instantanément, le tout en probablement moins de 40 minutes.
La carrière de Fresh a reçu son plus grand coup de pouce il y a à peu près un an, lorsque le ministre des Affaires des Enfants a voulu l'empêcher de chanter en vertu des lois interdisant le travail des mineurs. Les Ougandais ont critiqué le ministre et c'est à ce moment que Fresh a écrit Bambi, son appel à être autorisé à chanter. Le titre est devenu son plus grand succès, omniprésent à la radio et dans les bars, et a remporté le prix de la meilleure vidéo internationale des Carolina Music Video Awards aux États-Unis.
La musique m'a beaucoup aidé. J'ai gagné de l'argent grâce à la musique. Cela m'a donné une vie admirable. Je me suis aussi fait des amis. Cela m'a conduit dans une bonne école et je soutiens ma famille.
Finalement, ses parents, son manager et le gouvernement ont conclu un accord qui a permis à Fresh Kid de laisser derrière lui la pauvreté qu'il chante. Une école d'élite lui a même offert une bourse complète et il est arrivé premier de sa classe. Aujourd'hui, Fresh Kid est propriétaire d'un appartement où il vit avec son père qui a ouvert un salon de beauté.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Lionel Gaïma, présentation Abdelrahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.